Pendant que certains clients paient des fortunes à leurs agences tout en leur imposant les solutions, d'autres comprennent l'importance d'une réflexion stratégique en amont. Au fond, c'est un peu comme si moi, j'expliquais à mon plombier quoi faire pour remplacer mes 3 lavabos et mes 2 bols de toilette alors que je n'y connais rien. On pique une pointe de conversation avec l'ami Pablo Stevenson, président de l'agence Ressac, une boîte qui priorise la réflexion avant l'action. Bon, petit cast!
Moi, background assez straight, je me dirigeais là, depuis mon jeune âge, j'ai toujours aimé tout le truc technologique, là, genre j'étais quand même assez un geek qui avait son premier ordi, puis a commencé à faire son premier site, puis ces trucs-là. Puis j'ai décidé d'aller approfondir là, justement cette expertise-là, parce que ça me plaisait vraiment, puis je trippais avec ça. Fait que j'étais allé vraiment dans une aventure un peu plus design et aussi en design de jeux vidéo. Moi, mon objectif principal, c'était de travailler dans l'industrie du jeu, puis il y avait Ubisoft qui commençait à s'établir ici, etc. Fait que j'ai vu, genre, OK, il y a vraiment quelque chose, il y a une demande. Fait que juste avant que je finisse l'école, ils vont recruter directement là-bas, puis ils ont besoin de la nouvelle vague qui vont faire les prochains jeux. Ah. Fait que j'avais une proposition de la part de Ubisoft et j'en avais une aussi de Loto-Québec. Fait que oui, t'en as un qui était vraiment plus plate, puis t'avais un autre avec Ubisoft qui est vraiment plus fun, mais j'étais pas trop sûr que je voulais nécessairement faire un commitment dans l'industrie tout de suite du jeu vidéo en tant que tel, parce que c'est très rapide qu'ils disent « OK, ben toi, t'es un gars en 3D, tu vas faire du 3D, puis à un moment donné, tu deviens modeleur. » Puis moi, j'ai toujours eu un... J'étais vraiment plus dans la vibe business, partir d'une boîte ou aller plus loin avec ça. Puis l'affaire que j'ai faite, finalement, j'ai choisi le choix plate. Je suis allé chez Loto-Québec pour un contrat qui était beaucoup plus payant. J'ai ramassé de l'argent, j'ai arrêté de travailler après mon contrat. Puis j'ai dit « Je vais faire un plan d'affaires. » Puis je vais commencer à monter une boîte là, vraiment en communication, tout ce qui a rapport avec du marketing numérique. Okay. J'avais touché déjà un petit peu à ça. J'avais commencé à travailler chez 2B Interactive.
Hey, je suis devenu président par la suite quand Guilvy l'a acheté.
Ouais, c'est ça qui est drôle. Ben, avant, quand il y avait justement Bastien, Béat et François, ouais. Si je me rappelle bien. J'avais des petits, tu sais, avec mon mandat de l'Auto-Québec, j'allais aussi quelques fois dans la semaine faire du SEO, de la compote, de mots-clés, etc. Fait que j'avais compris quand même assez ça rapidement. Okay. Puis, c'est ça, à partir de là, j'ai ramassé un peu de cash, assez pour potentiellement être alive pendant je te dirais, 2-3 mois, là. J'ai fait un plan d'affaires rapido, j'ai appliqué au SAGE, tu sais, qui viennent en aide justement du Nord. Exactement. J'ai eu le cash. Puis j'ai pris un premier petit local, j'étais un, là. Puis c'était, ce qui était drôle, c'est que 2B Interactive, quand ils ont commencé dans le même bureau que moi, je l'ai su après, tu sais, c'était genre, OK, what's going on? Tu sais, il y a trop d'affaires, là, tu sais, il y a trop de signes.
Tout est connecté,
c'était fou, là. Ouais. Mon premier client officiel, qui n'était pas en mode, je te dirais, freelance, là, où j'avais besoin de plus d'une équipe, c'était avec Vélo-Québec. Pas longtemps après, on a fait une bonne job. Il y a eu un appel d'offres de Loto-Québec. Fait que moi, j'ai dit, OK, premier appel d'offres que j'ai de ma vie. On était invités. On s'essaye. Moi, je pensais avoir aucune chance de le gagner. Fait que j'ai dit, OK, ça fait deux ans qu'on existe. On a 2-3 clients. On est genre 2-3 dans la boîte. C'est impossible qu'on l'aille. Puis on l'a eu. C'est fou parce qu'à partir de là, ça l'a comme setup, je dirais, la catégorie de clients qu'on allait avoir dans le futur. Okay. Si on n'est pas l'agence qui va travailler avec le mom and pop shop, c'est pas que je veux pas, mais la nature des clients qu'on a, des services. Mm-hmm. On n'attire pas le mom and pop shop. J'ai jamais eu, par exemple, dans mon payroll, une équipe de vendeurs là, qui sont sur le téléphone en train d'appeler pour pogner des clients ou des trucs, là, style un peu plus page jaune, là, si on peut le dire. Là. On a toujours eu du client qui était quand même assez premium dans tous ces trucs-là. Puis tu sais, on a eu un Vélo-Québec, un Loto-Québec. Tu commences à développer des expertises. Ça, là, on a débouché avec d'autres clients par la suite. Un autre des milestones qu'on a eu, je dirais peut-être à la 3e, 4e année, quand on avait déjà déménagé parce qu'on avait besoin de plus de place, c'est avec le Cirque du Soleil. Il y avait le Cirque du Soleil qui avait fait toute la refonte de son site web au complet, puis il y avait beaucoup d'agences qui étaient impliquées, tu avais un CDI qui était impliqué, puis nous ils nous ont contactés pour le SEO justement là. T'sais, encore dans un truc très geek, puis on a commencé à travailler avec un plus gros client. Ils nous ont invités par la suite à participer à la campagne OneDrop, qui est la, quand Guy Laliberté est allé dans l'espace. Nous on s'occupait de tout le volet médias sociaux qui était au début vraiment des médias sociaux, comme on l'appelait. Fait que c'était... On a fait une super bonne job, puis ça nous a vraiment mis sur la map. On a gagné genre un boomerang, on était à un autre prix, on a eu 2-3 prix pour cette campagne-là. Puis c'était la première fois qu'on rentrait dans le monde, OK, on a reçu des prix pour ce job-là, tu sais. Puis on l'a fait vraiment guérir le style, tu sais, avec les moyens du bord, tu sais. Imagine-toi 4-5 gars là, qui trippent, puis ouais, OK, on connecte avec du monde sur le web, on essaie d'avoir des entrevues, on pousse du contenu sur Twitter, etc. On a fait plein de trucs là qu'on essayait, tout pour la première fois. Tout ça, ça l'a fait en sorte que ça l'a levé au niveau des médias sociaux. C'était à date, c'est la campagne la plus rentable qu'ils ont faite au niveau des médias sociaux et que même moi j'ai vu là, pour le temps qu'on a investi, le cash qui a été mis, donc presque rien en médias, c'est juste la relation. Ça l'a vraiment décollé. Diversifier un
c'est
peu
sûr ses services. Ça aide d'avoir un milliardaire qui a un héros dans l'espace. Locomotive d'une campagne sociale.
C'était, ben oui, parce que l'événement, c'était newsworthy, mais ouais. C'était difficile au début de commencer à travailler avec l'Estat du Soleil parce que vous êtes qui vous autres, tu sais? Ouais, vous êtes combien? Nous autres, on a un site avec qui devait être à peu près en 12 langues différentes, là. T'as-tu du monde qui est parti de 12 langues-là? On avait quand même une couple de langues à l'interne, là, mais on n'avait pas 12 langues, là. Tu sais, on n'avait pas toutes les langues asiatiques, fait que j'ai dû faire un partnership avec une boîte à Londres qui avait tout ce truc-là, puis on a commencé à travailler ensemble, fait que, tu sais, on a fait beaucoup de trucs pour la première fois, avec un risque quand même d'erreur qui était quand même grand, mais qui a fait en sorte que finalement, c'est une audace là, qui a permis de grandir. Fait que c'est ça un peu le parcours. Puis là, dans les dernières années, tu sais, on a vraiment diversifié notre approche numérique. Les clients, quand ils viennent nous voir, c'est souvent avec des objectifs d'affaires. OK, c'est on veut générer tant de ventes ou n'importe quoi. Puis l'approche qu'on a, tu as des clients qui vont arriver avec j'ai besoin de ça pour atteindre mes objectifs. Moi, nous, on vend du outcome. On essaye, en tout cas, du moins, de vendre du outcome. T'as, OK, non, mais ton outcome, si toi, tu veux augmenter tes ventes de X %, mais voici ce que ça prend. Puis c'est rarement, dans notre cas, que ça l'a, en tout cas, avec les clients qu'on a ou qu'on avait dans le temps aussi, ça a jamais été, ça a rarement été, par exemple, une application mobile. T'sais, j'aime mieux de mettre une campagne d'acquisition ou de fidélisation ou faire d'autres trucs avec du contenu, parce que je sais que ça, il va avoir plus d'équité à la fin de la journée.
Fait que tu as été assez joyeux, tu as réussi à avoir des relations de confiance avec tes clients versus des « I know better » puis « fais-moi ça ».
On était très chanceux. Ben, je sais pas si c'est de la chance, mais on a... On a poussé dans ce truc-là, c'est un peu dans l'ADN qu'on a. T'sais, on a toujours une approche très personnalisée avec le client. Puis comme je dis, pour la grandeur de l'agence, les clients qu'on a, c'est quand même des gros clients. Au début, encore une fois, c'était un challenge parce que tu dis, ouais, mais t'as-tu la capacité de répondre? Maintenant, cette capacité-là, c'est rendu de l'agilité, tu sais. C'est bon pour nous. Le temps nous a donné comme un peu raison. Moi, ce que je voulais, là, c'est genre du quality, du boutique, tu sais, genre d'avoir une approche plus personnalisée avec les clients. Moi, je valorise beaucoup l'approche stratégique, là, puis la réflexion. Je comprends qu'il y a des clients qui veulent pas nécessairement, des fois, ils veulent pas payer pour ça, tu veux juste payer pour l'exécution. Ouais. Mais ça vaut, c'est une des points les plus rentables sûrement d'une stratégie là, de bien la penser, puis la penser genre un petit peu plus sur le long terme. Long terme de maintenant étant un agent.
Je trouve que c'est encore pas mal le cas. Ça m'a toujours sidéré moi aussi, d'autant plus que moi je viens de la publicité traditionnelle. Ouais. Fait qu'on me fait passer des mois à se creuser une nette, à cogiter, à planifier avant de faire un spot en focus group, on fait création, whatever. On va shooter. C'était juste un 30 secondes. Il ouais. Fallait vivre avec pendant un an. Là.
C'est fou.
Mais on se donnait la peine d'y réfléchir. J'ai fait le saut en numérique à l'an 2000, puis ça m'a frappé à quel point, depuis ce moment-là, puis même encore malheureusement aujourd'hui, où on dirait qu'on se soucie moins de la stratégie, probablement par ignorance du numérique en général.
Absolument.
On doit être trop pointu, c'est-à-dire, tu vois, un client qui va te dire « j'ai besoin d'un site ». En fait, peut-être qu'il n'a pas besoin de site. Pourquoi tu as besoin d'un site? Puis ça prend du temps à aller plus loin, puis je suis pas sûr que malheureusement, en 2018, il y en a beaucoup qui ont évolué, là, juste pour que ça n'a pas bougé. Là, en 18 ans, j'ai quand même vu un progrès, mais j'ai l'impression qu'il y a encore un certain écart entre l'importance d'une stratégie d'affaires, de brand, puis ce qu'on va appeler une stratégie numérique, qui est souvent plus de la tactique.
Exact, l'opération, là, tu sais, il faut qu'on rentre hardcore dedans. Là,
c'est ça. As-tu vu une amélioration? Sont-ils à la même place, toi, dans tout ça? Parce que récemment que ça existe depuis?
Ça fait 11 ans déjà, 12 ans. Et je te dirais que il y a certains clients ou certaines industries qui ont beaucoup de la misère à comme je disais, là, qu'on doit les convaincre de dire, attends un peu, là, avant de commencer à courir, là, on va commencer à marcher, là, puis à se connaître, puis voir qu'est-ce que tu as vraiment besoin.
Ouais.
Les clients qui viennent nous voir en ce moment, ils comprennent la valeur de la stratégie. Il faut juste quand même savoir comment jauger justement il y a un budget X. Combien de ce budget-là va aller en stratégie, combien va aller après ça en exécution. Puis des fois, tu as des paramètres qui vont être différents tout dépendamment des approches qu'il va avoir. Mais ce qui valorise, c'est un des problèmes souvent que les agences vont avoir, c'est la connaissance de l'industrie de leurs clients. On connaît ce qu'on fait, on connaît les formats, etc. Mais tu connais-tu vraiment l'industrie de ton client, comment ça fonctionne? Fait que, tu sais, c'est ça qu'on veut approfondir. Puis oui, ça prend un certain temps. C'est un investissement, en fait, quand le client... On travaille ensemble, justement, là, pour avoir le plus de brainstorming ensemble. C'est pour ça que dans les dernières années, une des approches que nous, on a faites beaucoup avec les clients, c'est de la co-création. Co-création étant on les enferme dans une salle à cet effet-là, puis on se prend une journée, puis on commence à parler ensemble, puis on discute des vrais trucs, on brise des glaces, etc., le plus possible, puis pour avoir le feeling de qu'est-ce qu'ils ont vraiment besoin. Pour nous, là, le lieu physique fait partie du processus autant que, par exemple, ta dynamique là, pour aller sortir des idées avec le client. Si tu n'es pas inspiré, ça a l'air plate, puis tu as l'air d'être dans ton isoloir chez vous, dans une grande tour, tu vas le moins bien sortir. On a jamais été, je pense, dans l'attitude d'une agence qui a été trop coquille, là, genre on est les meilleurs, n'importe quoi, on fait nos shit, on fait nos affaires, puis on établit des relations avec ces clients-là. Ouais,
c'est pas très visible. C'est assez low profile.
On est très low profile. On voudrait.
Il y a du monde qui va vous voir pour votre stratégie, comment ça arrive, ça c'est...
95% des clients, c'est du income, là, genre quelqu'un nous a référé. Notre core a été toujours, au début de RESAC, a été vraiment SEO, search là, sur Google AdWords, etc. Très performance. Mm-hmm. Après, le milestone avec OneDrop, ça a été vraiment plus social. Mm-hmm. Maintenant, on est un mélange de tout ça on a ajouté une couche vraiment d'accompagnement stratégique qui est très fort avec le client. Fait qu'on a vraiment trois paliers, là, puis naturellement le contenu. Hier, j'étais au Google Summit à Toronto, au Facebook Summit, je veux dire, à Toronto. Les options de ciblage que tu s'en viennes, c'est une autre game, là. Genre, il y a tellement des nouvelles affaires hot qui s'en viennent à ce niveau-là que...
Juste dans l'écosystème Google ou...
Facebook, excuse-moi. Ouais, je me suis trompé. C'était au Facebook Summit où j'étais, puis... C'est juste malade. Puis comment tu vois que le contenu aussi prend énormément de place, puis du contenu qui est rapide, tu sais, des 5 secondes, des 6 secondes, des trucs comme ça, des stories, des séquences comme ça. Là, ça, c'est le name of the game maintenant, vraiment. Puis on le voit avec la plupart des clients qu'on a en ce moment, là, qu'ils ont besoin de beaucoup d'accompagnement, puis qu'on les aide à produire ces genres de contenus-là. Puis ça, c'est quelque chose qu'on est capable de faire ici en étant. Ce qui est requis, c'est l'agilité dans les contenus. Parce que maintenant, je te dis, c'est des stories, c'est des affaires qui sont rapides, c'est du contenu. Là. C'est même pas une question d'avoir de la vidéo. T'sais, on a beaucoup parlé de vidéo, c'est d'avoir du mouvement. Du mouvement, ça peut être du motion, quelque chose qui bouge, qui a l'air vivant. T'sais, des fois, la vidéo elle répond à ça, mais c'est pas nécessaire. Ça peut être des infographies. Il y a plusieurs manières de pouvoir l'amener, mais il faut quelque chose qui bouge, ça semble vivant, puis qu'il y a une certaine suite dans ces affaires-là. Pour faire ça, ces genres de contenus-là rapides, tu peux pas avoir l'approche, puis c'est pas tous les clients qui sont prêts à ça, de dire hey, OK, on va valider tous les contenus, puis ça va nous prendre une semaine pour les mettre en ligne, c'est fini ton momentum. C'est real time. Les stories sur Facebook ou par exemple Instagram, c'est parce qu'il faut que tu le fasses là sur la spontanéité quasiment du message. Mais il y a un moyen d'organiser ça. Puis c'est là où on est vraiment rendu, nous, c'est d'essayer de comment on fait pour mieux. On est capable de le faire, mais encore mieux se structurer pour être encore plus agile et pertinent aussi pour les clients.
11 ans.
Ouais.
Dans 10 ans, ben ça va faire quoi, tu penses? Ben, on garde 5 ans, on va te donner une chance.
5 ans. Ben, premièrement, on aime beaucoup l'approche expérimentale de comme on a vu qu'on était capable de faire l'incubation de projets qui deviennent des business par la suite. L'année passée, par exemple, on a fait un spin-off. Okay? On a commencé à faire un projet, on a incubé ici. On a une idée là, d'une espèce de technologie là, ad tech là, pour augmenter la qualité des audiences quand tu vas faire, par exemple, des campagnes sur Google ou Facebook. On s'est dit comment on peut être encore plus précis, tu sais, puis donc perdre moins d'argent dans des clics qui n'ont pas rapport, tu sais. J'ai mis une équipe de dev là-dessus. Après un an, on s'est dit OK, il y a vraiment un produit, on a fait une plateforme, on a fait une autre incorporation, c'est les autres qui sont d'autre bord de l'autre côté. Puis c'est une boîte qui est VC funded là, maintenant par Real Ventures, etc. Fait qui son growth qui vient de partir comme ça.
C'est lancé déjà.
Oui, c'est là. Je vais te montrer ça tantôt là. Mais c'est un hot startup là, qui commence vraiment.
C'est lancé quand?
On l'a parti au mois de janvier. On va faire le lancement officiel d'à peu près dans un mois.
C'est quoi le nom?
Soko. SOKO.AI. Fait qu'on est tous dans cette vague là, genre audience, machine learning, etc. Puis c'est quand même assez malade parce que en fait ce que t'sais, la plupart des budgets médias en ce moment, ça va sur Google et Facebook. Moi, je demande à mon équipe média combien d'argent vous avez investi ailleurs que Google et Facebook. Là, c'est quand même assez minime. Si on a trouvé un moyen de rapatrier une partie de ces budgets-là qui sont allés à Google et Facebook pour les publishers. C'est un VC-funded startup, là, genre avec près d'un demi-million de dollars là, t'sais, dessus. Là. Ça y va. Là. Puis c'est un autre game. Là, les startups, vraiment, là, c'est de la croissance hockey stick là, qu'il faut que tu ailles. Il faut que tu ailles vraiment plus vite. Mais c'est quelque chose que je trouve qui est quand même assez intéressant parce qu'on a gagné de la maturité à partir de ces genres de business-là. Ouais. On sait comment ça fonctionne, on comprend un petit peu mieux comment aller chercher du financement, c'est quoi les bons partenaires, puis aussi qu'est-ce que le marché a besoin d'avoir. Fait que d'après moi, c'est sûr et certain qu'on va sortir beaucoup plus des side projects comme ça. Ça ne veut pas dire que ça va toujours avoir lieu en relation avec le marketing ou etc. Ça peut aller un peu plus loin. Ce que moi, j'aimerais beaucoup dans les 5 prochaines années, c'est que ces projets-là, on les puisse faire en manière partenariat avec des clients également.
Ah ouais.
C'est je triperais, tu sais, un client qui me dit, regarde, nous, on veut aller là, mais on sait pas trop comment, mais go, on le part ensemble. Puis, tu sais, souvent, les agences ou les clients vont dire, ouais, ben, on travaille en partenariat. Ben, techniquement, un partenariat, là, il y a une entité légale qui définit le partenariat. Ça veut dire qu'on a des shares, les deux, là-dedans, puis on prend autant de risques, les deux, etc. C'est pas encore ça. Oui, il y a encore la relation. On veut être des partenaires, mais c'est encore fournisseur, client. Ça, d'après moi, là, c'est un next step. Puis d'après moi, ce step-là, si tu le vois avec la confiance, puis le, justement, si tu es capable de donner de l'autonomie au client, puis on est en mode accompagnement, puis on est là quand on est pertinent, c'est là que tu peux faire des trucs comme ça.
De quoi t'es le plus fier après ces 11 années-là?
Il y a beaucoup d'affaires qui me rendent fier.
Le plus,
je te dirais, c'est l'équipe en général. La gang. Il y a du monde qui sont venus ici, qui ont vraiment commencé à comprendre tout ce qui se faisait au niveau numérique ici. Il y a des gens qui sont partis, il y a des gens qui sont revenus, mais je te dirais à 95% des gens qui ont travaillé ici, c'est devenu par la suite des amis. Fait que je veux dire, je pense que j'ai toujours été très chanceux dans les genres de personnes qu'on a réussi à attirer. Comment faire des relations, puis ces clients, ces personnes-là sont devenues par la suite des clients, c'est devenu des partenaires dans d'autres affaires, des connaissances, tu sais, où ce qu'on se fie, puis tu sais, on permet d'évoluer ensemble, qui sont dans différentes entreprises, ils sont pas tous dans le domaine du marketing, il y en a qui sont, ils ont complètement changé. Mais à tous les mois ou à tous les deux mois, il y a un ancien de RESAC qui se pointe ici, qui dit, hey, j'étais dans le coin, salut, ça va, tatata, tout le monde, ah! On se met à jouer au baby foot, au moins une coupe de bière, puis ça, cette culture-là, je la trouve vraiment cool.
Et voilà, une autre bonne pointe de conversation de déguster. Pour écouter l'ensemble de nos points de conversation, rendez-vous sur daspidcast.ca. Pour lire les articles issus de ces rencontres, allez sur le Grenier aux Nouvelles en tapant le bit.ly/grenier-miron. À la prochaine!